Chapitre 9. Apprivoiser les tempêtes nocturnes. Ce que ton corps réclame vraiment quand la nuit tombe. Il est 22h. La journée est officiellement terminée. Les obligations sont remplies, les écrans devraient être éteints, le corps devrait se préparer au repos. Et pourtant, quelque chose se passe. Une vague monte, discrètement d'abord, puis avec une insistance de plus en plus difficile à ignorer. Une envie précise, intense, presque urgente. Pas de n'importe quoi, de quelque chose qui récompense, une satisfaction immédiate après une longue journée d'effort, quelque chose qui console, un baume pour les tensions accumulées et les émotions non traitées, quelque chose qui comble, un espace dont tu ne saurais même pas décrire les contours. Tu connais cette vague. Tu l'as peut-être combattue des centaines de fois avec des résultats variables. Certains soirs, tu tiens, d'autres, elle t'emporte. Et le lendemain matin, ce n'est pas tant la nourriture consommée qui pèse que le sentiment de n'avoir pas eu le choix, d'avoir été emporté par quelque chose de plus fort que toi, encore une fois, sans vraiment comprendre pourquoi. Ce chapitre est là pour que tu comprennes enfin la raison, pas pour te donner une liste de règles supplémentaires à respecter le soir, pas pour ajouter une couche de vigilance à une journée qui en a déjà trop exigé. Mais pour nommer ce qui se passe avec suffisamment de précision pour que tu puisses y répondre avec intelligence et compassion plutôt qu'avec honte et résignation. La chimie secrète de l'appel nocturne. Pour comprendre pourquoi les envies nocturnes sont si puissantes, souvent plus que toutes les résolutions prises dans la journée, il faut regarder ce qui se passe biologiquement dans le corps et le cerveau une fois la nuit tombée. La glycémie. Après une journée où les repas ont peut-être été irréguliers, sautés par manque de temps, décalés par une session d'hyperfocus, réduits à leur minimum par une jauge d'énergie trop basse pour cuisiner, le taux de sucre dans le sang peut se retrouver en fin de soirée dans un état de relative instabilité. Un taux glycémique bas envoie au cerveau un signal d'urgence énergétique clair. Et ce signal, amplifié par la fatigue, se traduit presque toujours par une envie intense et soudaine de sucre rapide, la forme d'énergie la plus immédiatement disponible que le cerveau connaisse. La chute de sérotonine. La sérotonine joue un rôle crucial dans la régulation de l'appétit et du comportement alimentaire nocturne. Ces niveaux suivent naturellement le rythme circadien. Ils sont plus bas en fin de journée et en soirée. Pour un esprit papillon, cette baisse naturelle de sérotonine vient s'ajouter à l'épuisement accumulé de la journée et à la chute dopaminergique qui suit le retrait du masque social. Le résultat est un état de manque biochimique réel que le cerveau cherche à compenser par les sources les plus rapides de sérotonine et de dopamine disponibles, les aliments sucrés et riches en glucides. L'épuisement exécutif. Tout au long de la journée, ton cerveau a exercé un contrôle constant sur ses impulsions, ses réactions, ses comportements. Ce contrôle est cognitivement coûteux. Le soir, quand les ressources de ce contrôle sont épuisées, la capacité à résister aux impulsions alimentaires s'effondre proportionnellement. Ce n'est pas une coïncidence si les envies nocturnes sont les plus difficiles à traverser. C'est le moment de la journée où les ressources de régulation sont structurellement au plus bas. Ces trois mécanismes combinés créent une tempête biologique qui n'a rien à voir avec un manque de volonté. Comprendre cette chimie ne résout pas tout d'un coup, mais cela transforme radicalement le regard que tu portes sur ces moments. De la honte vers la compréhension, de l'autocritique vers la stratégie. Reconnaître les signaux avant-coureurs de la tempête. Comme toutes les tempêtes, celle-ci s'annonce avant d'éclater. Elle a des signaux précurseurs que tu peux apprendre à reconnaître, non pas pour les combattre avec force, mais pour les accueillir avec préparation. Le premier signal est souvent une agitation diffuse qui s'installe en soirée sans raison apparente. Une difficulté à se poser, à se concentrer sur quoi que ce soit, une envie de faire quelque chose sans savoir quoi. Le cerveau en manque de stimulation commence à chercher et la cuisine est souvent le premier endroit vers lequel cette recherche se dirige. une irritabilité légère ou une tristesse douce, ce sentiment de mélancolie de fin de journée que beaucoup de cerveaux atypiques connaissent bien, correspond précisément à cette baisse naturelle de sérotonine et de dopamine en soirée. Cette émotion n'appelle pas nécessairement une analyse profonde, mais plutôt une réponse douce et pratique. Une fixation mentale sur un aliment précis. Pas une fin générale, mais une pensée récurrente et de plus en plus insistante sur quelque chose de spécifique. Du chocolat, des chips, du pain grillé avec du beurre. Quand cette fixation apparaît, la tempête est proche. Pas encore là, mais proche. Reconnaître ces expressions de ton cerveau à ce stade précoce est une fenêtre d'opportunité. Non pour se priver. La privation dans cet état aggrave la tension plutôt qu'elle ne la résout. Mais pour intervenir avec quelque chose qui répond aux vrais besoins sous-jacents avant que la vague n'atteigne son intensité maximale. Ancrer ses pieds dans le sol quand la vague arrive. Il existe des techniques d'ancrage sensoriel qui peuvent interrompre ou atténuer une vague d'envie nocturne intense, non pas en la réprimant, mais en redirigeant l'attention du cerveau vers des stimulations sensorielles alternatives suffisamment fortes pour court-circuiter l'impulsion alimentaire. Le froid tactile immédiat. Passer de l'eau froide sur le visage et les poignets, tenir un verre d'eau glacée à deux mains, poser les pieds nus sur un sol froid. Le froid crée une interruption sensorielle vive qui ramène le cerveau dans le présent physique et stoppe momentanément la fixation mentale sur la nourriture. C'est une réinitialisation partielle, rapide, accessible à tout moment. Le mouvement physique bref et intense. Pas une séance de sport, mais 10 sauts sur place, 30 secondes de marche rapide dans l'appartement, quelques étirements vigoureux. Le mouvement déclenche une libération immédiate d'endorphines et modifie le cocktail neurochimique du moment. Il interrompt aussi le schéma comportemental automatique qui mène du canapé au placard sans escale. La stimulation orale non alimentaire. Un chewing-gum à la saveur intense. Une infusion chaude et parfumée bue lentement et consciemment. Un carré de chocolat noir à très fort pourcentage de cacao savouré avec une attention totale plutôt qu'avalé distraitement. La micro-immersion narrative, ouvrir un livre physique, démarrer un épisode d'une série bien connue et réconfortante, écouter un podcast engageant. Pour un cerveau au câblage différent, l'immersion dans une histoire peut être aussi efficace qu'une récompense alimentaire pour apaiser l'agitation nocturne et ses effets durent bien plus longtemps. Le kit de survie nocturne, préparer le terrain avant la tempête. La stratégie la plus efficace pour traverser les tempêtes nocturnes n'est pas celle que tu construis au moment où la vague arrive, mais celle que tu as préparée en avance, dans un moment de calme, quand ta jauge d'énergie était suffisamment haute pour penser clairement. Ce kit de survie nocturne est un ensemble d'éléments physiquement présents dans ton environnement, pas dans ta tête ni dans une liste mentale, mais réellement là, visible et accessible. Une option alimentaire de décompression. Sensoriellement satisfaisante et suffisamment nourrissante pour stabiliser la glycémie sans déclencher de spirale impulsive. Par exemple, ça peut être quelques noix de cajou et 2 ou 3 carrés de chocolat noir, un yaourt grec avec une cuillère de miel et quelques noix, ou une petite banane avec du beurre d'amande. Une activité de substitution immédiatement disponible. Quelque chose de physiquement accessible, déjà préparé, qui demande zéro décision. Par exemple, un carnet de dessins posé sur la table basse, une playlist nocturne déjà créée sur le téléphone, un roman commencé posé sur le coussin du canapé. Ces éléments doivent être là, prêts, sans que tu aies à les chercher au moment où la tempête frappe. Et une encre de rappel bienveillant, quelque chose de simple qui te rappelle, dans ce moment précis, que tu n'es pas en train de faillir. Une phrase courte notée sur un post-it quelque part de visible. Juste un rappel doux. C'est une vague, elle va passer, tu vas bien. L'art de l'amnésie bienveillante. La pratique de l'amnésie bienveillante. Il y a les soirs où la tempête passe. Et il y a ceux où elle ne passe pas, où toutes les stratégies du monde ne changent rien au fait que tu es humaine, épuisée, et que ton cerveau a eu besoin de ce dont il avait besoin. Ces soirs-là arrivent. Ils feront partie du paysage aussi longtemps que tu vivras avec ce cerveau, c'est-à-dire toujours. La question la plus importante n'est pas comment les empêcher à tout prix, mais ce que tu fais le lendemain matin. Ce que cela signifie concrètement, non pas l'oubli irresponsable de ce qui s'est passé, mais la décision consciente de ne pas laisser un soir difficile contaminer le lendemain, de laisser la soirée de la veille exactement là où elle appartient, dans le passé, terminée, close, et de commencer la nouvelle journée avec une ardoise propre, sans le poids du jugement accumulé. Cette pratique n'est pas de la complaisance envers soi-même, c'est de la stratégie pure. Chaque matin passé à ruminer la soirée précédente est un matin dont l'énergie, déjà limitée, est consommée par la honte plutôt qu'investie dans le présent. C'est une ressource gaspillée qui aurait pu servir à faire un choix aligné au petit déjeuner, prendre soin de soi dans la journée qui commence, avancer plutôt qu'à reculer. L'ardoise se remet à zéro chaque matin. Non parce que ce qui s'est passé la veille n'avait pas d'importance, mais parce que ce qui se passe aujourd'hui en a davantage.